بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شيخ الإسلام Nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de reprendre ce soir les versets de Sourate Al-Mutaffifin. Et avant les vacances du mois de mai, on devait compléter les derniers versets de la Sourate Al-Mutaffifin. Et il me semble qu'on n'a pas pu, compléter. Alors ce qui nous restait à voir, c'était la situation de ces personnes qui faisaient du tort aux Ahl al-Iman dans ce dunya, et qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal leur a réservé dans l'au-delà. On avait commencé la sourate en parlant du sens profond de Al-Mutaffifin, leurs agissements et les conséquences de leurs actes dans l'au-delà. On avait vu également la remise des livrets. Kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Quelle sera la situation des pécheurs, des personnes qui ont désobéi Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection. On a vu également que ces personnes, ce qui distingue ces personnes, c'est que leur cœur est devenu endurci. Le cœur est devenu endurci à cause des péchés. Kalla bal rana. Et le fait que ces personnes commettaient des péchés et ils ne demandaient pas taouba, ils n'avaient même pas l'intention de revenir vers Allah, les points noirs s'installaient sur leur cœur jusqu'à ce que les cœurs devenaient totalement noirs. On avait rappelé que ça, c'était une des conséquences des péchés. Parmi les conséquences des péchés, le fait qu'il y ait des reproches, Allah Azza wa Jal aura des reproches à nous faire le jour des comptes, le fait que le péché soit inscrit dans le livret des comptes, le fait également qu'il y ait énormément de témoins, la terre, les membres du corps, où le péché, la terre, l'endroit où le péché a été accompli, les membres du corps, les anges qui ont été témoins, ils vont tous témoigner contre nous, donc le jour des comptes. Et parmi les conséquences des péchés, il y a aussi le fait que le cœur devient noir, devient, subhanallah, comme imperméable, Allah musta'an, à la lumière du Coran, alors que cette lumière, elle est censée toucher tous les cœurs, mais à l'exception de celui qui s'est détourné d'Allah et dont le cœur est devenu endurci. On a vu, ça c'est le pire des cas de figure. Enfin, ça c'était juste avant les vacances du mois de mai, on avait vu la situation qui, incha'Allah, sera la nôtre le jour des comptes. Kalla inna kitab al-abrari lafi 'illiyyin. Les gens qui étaient dans le droit chemin, quelles seront leurs situations? Comment est-ce qu'ils seront accueillis par les malaïkas, accueillis par subhanallah, Allah Azza wa Jalla va les accueillir bien sûr. On a vu également inna al-abrari lafi na'im, ils seront dans les plus grands bienfaits dans l'au-delà de le Jannah. Et al-ara'iki yanzurun, ils seront allongés, ils vont admirer ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a accordé. Et ce qui est vraiment magnifique, c'est ta'rifu fi wujuhihim nadrat an-na'im. Sur leur visage, il y a cette lumière, il y a cette quiétude, cette, subhanallah, ce bonheur, le bonheur éternel est visible et palpable lorsqu'on contemple le visage des gens qui sont dans le Jannah. Et on avait vu quelle était leur boisson, yusqawna min rahiqin makhtum. On avait parlé du rahiq makhtum, on avait parlé du tasnim, des boissons spécifiques au paradis. Et donc, après avoir vu le verset 27-28, عَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ, il restait إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ. On a déjà parlé de la situation des pécheurs, ceux qui faisaient du tort aux Ahlul Iman, aux musulmans de la dunya. Maintenant, dans les derniers versets de Mutaffifin, on reparle de ces gens, mais en comparant, il y a comme un parallèle entre leur situation dans le dunya, la situation des musulmans, des musulmans de ce dunya, et la situation de ces personnes le jour des comptes. Inqilab al-umur, comment est-ce que les personnes se moquaient des ahlul iman de ce dunya, et qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal leur a réservé dans l'au-delà. Et dans l'autre sens, les mazloumin, les personnes opprimées, ceux qui disent la ilaha illallah, et à cause d'eux, par rapport à la ilaha illallah, les personnes sont oppressées, insultées, humiliées, voire plus. Dans certains endroits même, on tue, Allah musta'an, des gens qui affirment le shahada par rapport à leur identité musulman. Et la situation, subhanallah, dans le delà, où Allah inverse les tendances. La personne de ce dunya qui fait du tort à son prochain parce qu'il est musulman, ben la personne, Allah musta'an, si elle meurt dans cet état sans demander tawbah à Allah, sans qu'Allah lui ait écrit la guidée, ben la personne verra quelles seront les conséquences de ses agissements dans l'au-delà. Alors on va faire le tafsir de ces derniers versets et après, Inch'Allah, on a deux points à aborder ensemble hein, concernant. On voulait faire un petit compte rendu hein, du subhanallah du séminaire que Allah nous a offert de faire à Paris pendant ces vacances du mois de mai et ensuite parler un peu du concours Hajj, mais je sais que si on commence par les autres thèmes, on ne va pas terminer le Mutaffifin, donc il faut absolument qu'on termine surat al-Mutaffifin avant. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun. Les criminels riaient de ceux qui croyaient. Wa idha marru bihim yataghamazun. Et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. Et passant près d'eux, non, ça on a lu, et retournant de leur famille, ils retournaient en plaisantant. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Et les voyants, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. C'est-à-dire que quand ces personnes voyaient des musulmans, ils disaient aux gens que ces personnes-là sont égarées. On continue. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. فَالْيَوْمَ. Et c'est là que ça nous intéresse. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Donc, en ce jour, c'est-à-dire le jour des comptes, Masha'Allah, il nous manque la traduction. La suite, frère, Inch'Allah. On va donner la traduction approximative. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يضحكون. En ce jour, c'est-à-dire le jour des comptes, en ce jour on verra ceux qui ont la foi, c'est eux qui vont rire. C'est eux qui vont rire de ces mêmes personnes. على الأرائك ينظرون. Alors qu'ils sont allongés sur الأرائك. On pourrait traduire أرائك par des lits, des divans du paradis. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Est-ce que maintenant ça y est? Est-ce que ces kuffars, ces personnes qui faisaient, qui désobéissaient à Allah, ces personnes qui faisaient du tort aux musulmans, est-ce qu'en ce jour, ils ont eu ce qu'ils méritaient? Est-ce qu'ils ont eu ce qu'ils devaient avoir? Donc, ça, c'est le genre des comptes. Alors, dans les commentaires, inna alladhina ajramu, les mufassirin disent qu'on parle de inna alladhina ajramu, Allahu Akbar, ce sont ceux qui ont vécu dans la désobéissance d'Allah. Kanu min alladhina amanu yadhakun, ay fi dunya. Dans ce dunya, ces personnes, ils se moquaient. Istihza, sukhriya, istizghar. Il y a trois termes qui reviennent. Istihza, des moqueries. Sukhriya, on va dire c'est à peu près le même sens. Istizghar, déconsidérer les personnes. Et dites-moi si ce n'est pas le cas de nos jours. Il suffit qu'il y ait le moindre événement, le moindre incident qui implique quelqu'un qui porte le nom de Mohammed, Fatima, Ismaïl, Abdallah, pour qu'on en fasse un, dites-moi, qu'on en fasse un, dites le mot que je veux entendre, un terroriste, immédiatement. Il viendra peut-être une époque où si un musulman brûle la priorité, ou il ne s'arrête pas un feu rouge, on le traitera de terroriste aussi. Alors que la même chose, le même crime, un crime reste un crime, le même crime, le même délit, accompli par une personne, j'allais dire, ordinaire, hein, pour eux, une personne qui ne porte pas le nom Mohammed Abdallah, ben, ça restera un crime, ça restera un vol, ça restera, Wallah Musta'an. Et nous voyons, il suffit qu'il y ait un incident impliquant un musulman pour qu'immédiatement qu'on en fasse une affaire d'État et que cette personne porte l'étiquette de terroriste et que toute la Ummah, c'est comme si que toute la Ummah doit payer les actes de cette personne. Et là, ça va déferler pendant des jours, pendant des semaines, des discours, des articles de presse, des reportages, des documentaires, des lettres, subhanallah, des courriers des lecteurs, des insultes, hein, et je ne parle même pas des sites internet, des commentaires sur l'islam, sur les pratiques de la religion, sur le sens profond de l'islam. Allah musta'an. Ça, c'est par rapport à l'actualité. Maintenant, si on parle du quotidien, c'est-à-dire la vie de tous les jours, d'accord? Si nous comparons le verset, lorsqu'il a été révélé, ce verset concerne les gens, les musulmans qui sont persécutés. Les musulmans qui vivent des situations difficiles à Makkatul Mukarrama. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, était le premier parmi ces personnes à subir les moqueries, les attaques, les humiliations et parfois même hein, les atteintes physiques de la part des Quraysh et d'autres personnes à qui il prêchait l'islam. On a traité le prophète alayhi salatu wassalam de majnoun, On le traitait de fou. On le traitait de kadhab, de menteur. On l'accusait de vouloir séparer, de vouloir diviser les Arabes. De vouloir semer la zizanie dans les familles, dans les tribus arabes. On a même accusé le prophète alayhi salatu wassalam de sahir, de sorcier. Que les paroles qu'il a portées, ça émanait de la sorcellerie. Allah musta'an. Donc ça c'était les insultes et les accusations. Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, vous savez que c'est le premier homme à prêcher ouvertement l'islam. Une fois il était dans un masjid al-haram, à Makkah al-Mukarrama, avec le prophète alayhi salatu wassalam, et il n'a pas pu faire preuve de patience, il a voulu informer les Quraysh de la véracité de l'islam. Il a voulu dire, il n'en pouvait plus de garder le message pour lui. Il a voulu tenir informé, il a voulu annoncer la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'unicité d'Allah. Parce que cette Kaaba, qui est le symbole du tawhid, du monothéiste pur, construction d'Ibrahim alayhi salam, Abu al-Anbiya, entouré d'idoles, Allah musta'an, Abu Bakr n'en pouvait plus. Et il s'est levé et il a expliqué aux Quraysh qui étaient là la véracité sur l'islam, l'unicité d'Allah, la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont tellement frappé, on ne parle plus de caricature là mes chers frères et sœurs. On ne parle plus d'articles de presse, on ne parle plus de commentaires, de tweets ou autre chose sur Facebook ou autre chose. On parle de coups d'atteinte physique. Ils ont tellement frappé Abu Bakr al-Siddiq qu'on ne le reconnaissait plus. Et la première chose qu'il a dit lorsqu'il s'est réveillé, il était donc inconscient, lorsqu'il s'est réveillé, la première chose qu'il a demandé c'était quoi? Comment va le prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'amour que Abu Bakr avait pour An-Nabi alayhi salatu wa sallam, ça c'est déjà dalala, une preuve de iman. Ça c'est ajib ça. On va pas sortir du sujet, mais lors de l'immigration à la Hijra, cet honneur qu'il a eu Thani Athnain, idhuma fil ghar. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal cite le cas d'Abu Bakr al-Siddiq, qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fil ghar de la grotte. Cet honneur qui lui a été fait et qui sera perpétué et lu jusqu'au Qiyam. Maintenant, Allah musta'an, on trouve des gens qui insultent Abu Bakr al-Siddiq. A'oudhu billah, shaitan rajim. On trouve des personnes qui insultent Abu Bakr, qui insultent Umar, Uthman. A'oudhu billah. Allah yahdihim bas. Donc, Abu Bakr, lorsqu'il était avec le prophète alayhi salatu wassalam, lors de l'immigration, le prophète le voyait marcher parfois à côté de lui, à droite, parfois à gauche, parfois derrière, parfois devant. Et le prophète sallam demande, oh Abu Bakr, pourquoi cette démarche particulière? Pourquoi tu ne restes pas à un endroit? Le prophète sallam, il savait qu'Abu Bakr avait quelque chose en tête. C'était un homme, grande intelligence, Abu Bakr al-Siddiq. Abu Bakr dit au prophète d'Allah, je pense aux ennemis, j'ai peur. Il a peur de quoi? Pour lui? Pas peur de lui. Il a peur. Il n'a pas peur pour sa personne, ni pour ses enfants, ni pour sa femme, ni pour ses parents. Il dit, j'ai peur qu'un ennemi vienne et il essaie de t'attaquer. Donc je me mets devant, de crainte que l'ennemi arrive devant, au moins s'il lance une flèche ou une lance ou autre chose, c'est moi qui le prends, je te protège. Et puis il y a des fois je me dis, mais si l'ennemi vient de derrière, alors je me mets immédiatement derrière toi, au moins s'il y a une flèche qui vient, je l'empare de mon dos. Et pareil pour la droite, pareil pour la gauche. Ça c'était l'amour qu'Abou Bakr avait pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsque donc il s'est réveillé à Mecca après avoir été frappé, la première chose qu'il a demandé, comment va le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette histoire parmi tant d'autres, on pourrait citer le cas de Bilal, on pourrait citer le cas de Suhaib al-Rumi, qui on a dérobé tout ce qu'il avait. On pourrait citer le cas de Alou Yasser, la famille toute entière. Le fils s'était converti, puis ses parents ils se sont convertis à l'islam. Et ils ont été torturés jusqu'à la mort à Mecca. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait, il constatait ce qui se passait. Il voyait que les Ahl Yasir étaient persécutés, mais notre prophète ne pouvait rien faire. Et vous pouvez vous dire, ou quelqu'un peut se demander, mais c'est des gens qui ont la ilaha illallah, ils vivent à Mecca, c'est les sahaba, ils vivent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais leurs doigts ne sont-ils pas mustajab, ne sont-ils pas acceptés? N'est-il pas suffisant qu'il lève les mains et qu'Allah envoie les manaïka, ou qu'Allah envoie une pluie de pierres pour détruire les ennemis, ou qu'Allah fasse trembler la terre pour que la terre les engloutit, les écrase? Oui, Allah aurait pu le faire, bila shak, sans le moindre doute. Mais ça c'est sunnatullah, la décision d'Allah, hikmatullah, la sagesse d'Allah. Qu'il y ait des oppresseurs et des opprimés. Si on pouvait voir cette scène et qu'on mettait sur pause, et d'un regard objectif avec du recul, on se dit que oui, mais c'est pas normal. Eux, ils adorent Allah, ils sont dans la vérité, les autres sont dans l'erreur et c'est eux qui ont le dessus. Ils se sont moqués d'eux, ils les ont accusés de tous les torts, tous les maux possibles, ils les ont frappés, humiliés, torturés et maintenant, ils reprennent leur vie. Ben, quelqu'un peut se dire, mais où est l'aide d'Allah? Où est la nusrat d'Allah? Où est la promesse d'Allah? Cette promesse, c'est إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ. C'est cette étape-là. Ça, ce verset, on pourrait dire que n'importe quel croyant, croyante, quels que soient les endroits, quelles que soient les régions du monde, quelles que soient les époques, qui subissent des humiliations, ou alors pire même, des atteintes physiques par rapport à son appartenance à l'islam, ce qu'on appelle aujourd'hui, dites-moi le mot, islamophobie, terme qui malheureusement a du mal, beaucoup de mal à être reconnu. D'autres religions, plus, hein, mashallah, ils passent mieux que nous. Si on porte atteinte à eux, on a des termes, on a tout ce qu'il faut, il faut les protéger, mais nous, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un génocide? Le génocide a commencé depuis très longtemps, mais c'est un génocide silencieux. Il y a la presse, il y a les caméras, notre frère Ibrahim qui est spécialiste de l'image, mais bon, c'est le plan local. Il y a les médias qui sont présents, mais ils sont présents là où ils le veulent. Ils mettent les projecteurs là où ils veulent bien le mettre. Ils sont téléguidés pour donner une information, une vision du monde qu'ils veulent bien donner, que certaines personnes veulent bien donner, et que le public, le grand public, va écouter, va regarder, va lire, et ils vont se faire une idée, ils vont comprendre le monde de la sorte. Ça me rappelle un petit peu, hein, c'est des cours de philosophie, hein, l'histoire de Platon, les hommes de la caverne, où il voit des ombres bouger, et pour eux, il y a des gens qui font bouger des ombres, eux ils les voient sur les murs, et pour eux, le monde se résume à ça. Bref, c'est-à-dire que une personne qui ne fait que regarder, lire et constater ce qui se dit, mais pour lui, le dunya, le monde c'est exactement ça, c'est eux les mauvais et les bons c'est. Donc, n'importe quelle personne qui souffre intérieurement, ça peut être une personne qui vit dans un pays de guerre, où il a perdu des proches, toutes les vidéos terrifiantes qu'on a vues sur la Syrie. Allah musta'an. Dites-moi, où sont les pays? Où sont les pays riches? Dites-moi où sont ces pays à la recherche de la justice, des droits de l'homme? Où sont ces pays qui clament l'humanisme? Dites-moi. Quand on voit des hommes, des femmes, des enfants égorgés, quand on va pas parler de politique, on voit des personnes qui marchent dans les rues avec des machettes, des sabres, on peut dire ça comme ça, des sabres qui vont égorger Ahlul Iman. Parce que eux, ils ne font pas partie d'Ahlul Iman. Et ça, vous savez bien de quoi on parle. Ils n'ont pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah comme nous, avec des divergences, des différences. Ben, où sont ces mêmes personnes qui recherchent l'amour de l'être humain, le respect, la dignité de l'homme? Quand nous voyons les images, les vidéos de la Birmanie, Burma, dites-moi, où sont les droits de l'homme? Quel péché ces peuples ont-ils fait? Si ce n'est que ce sont des populations pauvres, ou alors des gens sans intérêt, qu'Allah nous pardonne. Des gens qui ne représentent rien pour le monde, qui n'ont aucun rôle, qui ne pourront rien apporter au fonctionnement, au système économique. Donc leur vie est bradée. Leur vie n'a pas autant d'importance que quelqu'un qui habite dans un pays occidental. Dans un pays occidental, il y a deux morts, il y a trois morts. Certes, nous avons le même respect, nous éprouvons la même peine pour toute personne qui meurt, qui souffre, toute confession confondue. Mais face à la mort, pourquoi sommes-nous? Pourquoi n'y a-t-il pas d'égalité? Pourquoi sommes-nous, j'allais dire, différents? Et là, on parle même plus différents parce qu'on ne veut même plus comparer. Pourquoi est-ce que dans un pays occidental, lorsqu'il y a trois morts dans un attentat, tout en condamnant ce qui est fait et en étant solidaire avec les personnes qui perdent des proches, mais pourquoi ces trois personnes bénéficient d'un traitement de faveur alors que d'un autre côté, d'un pays du tiers-monde, quand il y a un obus qui tombe sur un village ou dans une école où vous avez 25 enfants qui meurent, on aura droit à quelques lignes dans les sites internet et on n'en parlera plus le lendemain. Quand il y aura les résultats de la Ligue 1, de Champions League ou je ne sais pas quoi, on n'en parlera plus. Wallah musta'an. Mes chers frères et sœurs, ouvrons les yeux, voyons vraiment la situation de la Ummah et ne nous laissons pas tromper par ce qu'on entend et ce qu'on voit. Le musulman éclairé, intelligent, doit être capable de se faire sa propre opinion. d'avoir une lecture de ce dunya avec ses yeux et son cœur, et un cœur rempli de ilm, de iman, de compréhension du din comme Allah l'a révélé. Et donc chaque personne qui est atteint, qui est visé, qui se sent humilié par rapport à son appartenance à l'islam, ces versets Al-Mutaffifin de 29 à 36, c'est le plus grand réconfort. C'est le plus grand réconfort parce que ce verset ne cite pas uniquement la situation des pécheurs, des gens qui ont fait du tort dans l'au-delà. Parce que ce genre de verset, il y en a beaucoup qui parlent du Jahannam, qui parlent des adab, des châtiments. Il y a beaucoup de versets comme ça. Mais ce qui est extrêmement intéressant dans ces sept versets, c'est qu'on fait une comparaison entre la situation de ces gens dans le monde, dans ce dunya, et la situation de ces mêmes personnes dans l'au-delà. Et l'inversement des rôles. Ceux qui faisaient du tort, ceux qui étaient opprimés. Maintenant, quelle est la situation des opprimés auprès d'Allah ? Alal ara'ik. Et quelle est la situation des zalimin, des oppresseurs qui sont en train de subir le châtiment d'Allah, et que ceux qui étaient opprimés ont, j'allais dire en plus, le loisir de pouvoir contempler la justice d'Allah par rapport à tout ce qui a été fait dans ce dunya. Donc pour revenir à Suhaib, par Suhaib, à Ali Yassir, notre prophète alayhi salatu wa sallam constate à Ali Yassir, le papa, la maman, la famille entière, persécutée jusqu'à mourir à cause de quoi ? À cause de la ilaha illallah. Et ça nous rappelle sourate qu'on avait vu il y a deux mois à peu près, Qutila ashabul ukhdud, an-nar, zat al-waqud, id hum 'alayha qu'ud. Ils étaient assis, les chefs, les notables, ils étaient assis qu'ud. Ils observaient Ahlul Iman en train de mourir dans le feu, hommes, femmes et enfants. Et pourquoi est-ce qu'on les persécutait ? Pourquoi est-ce qu'on les tuait ? Uniquement parce qu'ils avaient attesté La ilaha illallah. Wa ana qawmun minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Illa an yu'minu. Uniquement parce qu'ils avaient iman. Même situation de Ali Yassir. Et ce sont là des cas de figure qui se produiront jusqu'au Qiyam à différentes échelles. Il y a des moments où la Ummah connaîtra des stabilités en fonction des lieux géographiques, en fonction des époques. Il y a des moments où il y aura des fitnes. Donc Ali Yassir, le Prophète sallam, constate ce qui est fait, constate ce qu'ils subissent par amour pour Allah. On peut se dire pourquoi Allah ne les aide pas, mais c'est là la sagesse d'Allah, parce que ces gens-là, ils vont voir le jour des comptes quel rang Allah leur a réservé. Et les oppresseurs vont voir comment est-ce que Allah les accueille et quelle est leur punition exemplaire aux yeux du monde, le jour des comptes. Et je vous donne ma parole, il n'y a pas besoin que c'est moi qui vous donne la parole, subhanallah. Les gens qui ont été persécutés, humiliés pour leur iman, lorsqu'ils vont voir les récompenses au jour des comptes, assurément, ils vont remercier Allah d'avoir pu subir un petit mujahada, un petit sacrifice pour la ilaha illallah. Ça, c'est la situation dans le delà. Et donc, pour Ali Yassir, notre prophète ne pouvait rien faire. Et qu'est-ce qu'il a dit à Ali Yassir ? Mais cette parole, elle est en or. Cette parole, c'est un réconfort. Sabran, Ali Yassir. Fa inna maw'idakum al-jannah. Faites preuve de patience, ô Ali Yassir. Certainement, votre rendez-vous, ce qu'Allah vous a réservé, c'est al-jannah. Et cette phrase, c'est pas un discours de 20, subhanallah, d'une temps ou de 2 heures, non. Une petite phrase du prophète alayhi salatu wassalam, c'était suffisant pour réconforter ces gens, parce que le prophète les a rappelés qu'est-ce qu'Allah leur a réservé. Sabran, faites preuve de patience. Inna maw'idakum al-jannah, Allah vous a réservé al-jannah. Donc mes chers frères et sœurs, ces versets-là sont extrêmement importants. Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun. Ça peut être des moqueries, ça peut être des insultes, ça peut être des choses que vous entendez, que vous lisez et qui vous touchent, qui vous vexent. Il y a un site sur Facebook, j'ai vu il y a 2 ou 3 jours, je ne peux même pas vous dire le nom, tellement c'est odieux. Na'oudhu billah, c'est chaque mot composant le titre de ce groupe, ce sont là des insultes avec des photos. Si vous voyez ces photos, les caricatures à côté, c'est rien. Allah musta'an. Mais je ne veux pas en parler pour pas que les gens aillent dessus. Plus les gens vont y aller, ils auront de l'audience et ce sera mieux pour eux. Mais Allah musta'an. Chaque personne donc qui a fait du tort à l'islam, ils verront leur situation de l'au-delà. Si je ne me trompe pas, il y avait un hadith, on l'avait lu il y a quelque temps, concernant le shafa'a, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'Allah commence les hisab, les comptes. Et après l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que les comptes commencent, lorsqu'Allah a accepté hein, le shafa'a, l'intercession, et que le hisab a commencé, juste avant que le hisab commence, il y aura des personnes qui vont entrer dans le jannah bi ghayri hisab, qui vont entrer dans le paradis sans rendre compte. Il y a des catégories de personnes. Et en même temps, il y aura unuq, comme un coup ou quelque chose qui sort du jahannam et qui va venir attraper, happer des personnes pour les précipiter dans le jahannam immédiatement. Là aussi, sans rendre compte, sans passer par un quelconque tribunal. Et si je ne me trompe pas, dans le texte du hadith, il est stipulé que parmi ces gens-là qui seront jetés dans le jahannam immédiatement, sans qu'il y ait de hisab ou autre chose, ce sont ceux qui ont fait du tort à Allah et son prophète. En combattant l'islam, c'est exactement le cas de ces personnes. Allah m'stain. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ On se rapproche un peu du tafsir. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ Tout ça, c'est sukhriya. Alors, il y a certes des persécutions, des insultes. Mais même, وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ On parle des œillades. Et ils se faisaient des œillades, c'était des clins d'œil. Hein, des moques, ça peut être des gestes, ça peut être des paroles, ça peut être des coups, ça peut être du sang qui coule, ça peut être également une simple mimique, c'est-à-dire un signe des yeux ou un signe de la tête pour se moquer d'une personne. Ça aussi, ça s'appelle adha. Ça aussi, ça s'appelle du tort causé aux gens. Donc, même si quelqu'un subit des œillades, c'est-à-dire quelqu'un vous regarde avec des signes de la tête, etc., etc., pour se moquer de vous, ça aussi, ça fait partie du sukhriya, ça fait partie des humiliations. C'est, on va dire, les premiers, les degrés les moins forts qui vous touchent le moins, peut-être. C'est peut-être même pas perceptible, mais pour Allah, c'est grave. Parce qu'ils sont en train de faire du tort aux gens qui se prosternent devant lui. Et ça, Allah n'aime pas. Les œillades, les mauvais regards, les signes, hein, juste pour humilier la personne, pour se moquer d'eux, même si la personne ne s'aperçoit pas, même si on n'a pas fait réellement du tort, pour Allah c'est déjà grave. Parce que Allah Azza wa Jalla le cite dans Al-Mutaffifin. Allah cite Yataramazoun. Et Allah cite le simple fait que Waidan qalabu ila ahlihimun qalabu fakihin. Et fakihin, ça veut dire en plaisantant. C'est-à-dire que lorsqu'ils retournaient auprès de leurs proches, hein, ils parlaient. Ils disaient, ouais, ces musulmans, ben là c'était à l'époque du Prophète, mais à toutes les époques, ils parlaient des Ahlul Iman, les musulmans, comment ils font n'importe quoi, ils sont. Bref, ils se moquent, c'est. Bon, là, si c'était entre nous, on appellerait ça du bohtan, de la calomnie. Mais là, c'est de la calomnie, des accusations portées par des gens qui détestent l'islam. Et pour Allah, c'est très grave. Autant la persécution, les coups, le sang qui coule, c'est grave pour Allah, autant les œillades. Et fakihin, le fait qu'ils se moquent, qu'ils plaisantent entre eux. Regardez bien, entre eux. وَإِذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ Auprès de leur famille. C'est pas qu'ils se moquent de vous en public. Parce que quelqu'un qui se moque de vous en public, ça va vous vexer, ça va vous toucher. Ça va vous faire de la peine. Mais là, أَهْلِهِمْ Ils retournent auprès d'eux. Entre eux, et ils parlent, on va dire à table, ou alors, je ne sais pas dans quelle situation. Entre eux, ils se moquent des أَهْلُ الْإِيمَانِ Ça ne porte pas atteinte. Je suis chez moi, lui il est chez lui, et il parle, il se critique dans son salon ou alors autre chose. Mais pour Allah, c'est déjà grave. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal cite même ce cas de figure dans Al-Mutaffifin. Vous voyez comment Allah nous protège? Est-ce qu'on peut sauver ça dans Al-Mutaffifin? Dites-moi. Autant de fois qu'on a lu ce sourate, qu'on le connaît certainement par cœur, mais est-ce qu'on percevait cet amour qu'Allah porte à Ahlul Iman? Nous voyons peut-être que des wa'id, azab, châtiment mis en garde, mais il y a l'amour d'Allah pour nous dans ces versets. Parce que Allah ici, tous les cas de figure, du cas le plus simple où des gens ils parlent sur vous, parce que vous avez la foi entre eux, ils vous font pas du tort directement. Mais pour Allah, c'est déjà grave parce qu'ils sont en train de porter atteinte à la dignité de ces gens qui se prosternent 5 fois par jour devant lui et qui attestent la ilaha illallah. Vous voyez comment Allah Azza wa Jalla aime l'ahlul iman. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوما يقوم الأشهاد. Dans ce dunya, Allah nous apporte son aide et surtout le jour des comptes. Il y a des fois où l'aide d'Allah ne vient pas de ce dunya. Al Yasir, Ashab al-Ukhdud, est-ce qu'ils ont eu, et nos frères en Birmanie, nos frères en Syrie et dans d'autres pays, est-ce qu'ils ont eu la nusra d'Allah de ce dunya? On peut dire que non, ceux qui sont déjà morts, persécutés ou brûlés, comme il y a eu au Bangladesh ou je ne sais pas, dans ces régions. Est-ce qu'ils ont eu la nusra d'Allah? Non, ils sont morts, torturés. Mais la nusra d'Allah viendra où? Dans le delà. Et lorsqu'Allah vous vient en aide dans le delà, cette nusra, cette aide, elle est plus merveilleuse. Tout comme lorsqu'Allah vous rétribue, garde vos récompenses dans le Jannah, c'est exceptionnel. Vous préférez être récompensé de ce dunya ou de l'au-delà avec le Jannah? D'une seule voix, on va tous dire que vaut mieux la récompense de le Jannah plutôt que d'être comblé de bienfaits de ce monde. Mais pareil, pour l'aide, la justice, Allah peut envoyer la justice, peut faire justice dans ce monde, envoyer son aide dans ce dunya, tout comme Allah peut le faire dans l'au-delà. Et quand Allah le fait dans l'au-delà, c'est une justice implacable, exceptionnelle, parfaite, kamil, qui élève les opprimés au plus haut rang. Parce que de le Jannah, c'est le plus haut rang possible, qu'aucun œil n'a vu, aucun oreille entendu, aucun cœur imaginé. Et quand Allah rabaisse les zalimis, les oppresseurs, ben c'est la pire des punitions. Parce que la punition du Jahannam est inégalable. L'ange du Prophète qui on mettra des chaussures du Jahannam, son cerveau va bouillir. Il pensera être l'homme le plus éprouvé dans l'enfer. Alors que c'est l'homme qui a le châtiment le plus doux. Que Dieu a de celui, de ceux qui. Alors que lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il protégeait le Prophète, oui ou non? Il faisait en sorte que personne ne porte atteinte à son neveu de son vivant. La seule chose qui n'est pas entrée dans son cœur, c'est la ilaha illallah, l'acceptation, al-qaboul. Il savait que c'est la vérité, mais il n'avait pas accepté, il ne pouvait pas le dire. Il protégeait le prophète, mais il n'avait pas iman. Quel est son châtiment dans l'au-delà? Maintenant, celui qui combat Allah est son prophète. Et quand quelqu'un combat les musulmans, il combat directement Allah et son prophète. Imaginez seulement qu'est-ce qu'Allah leur réserve de l'au-delà. Et ça doit être suffisant, yakfi. Ça doit être suffisant pour rassurer nos cœurs, pour nous dire que de toute façon, ce dunya, ad-dunya, dites-moi, sijnul lil mu'min. C'est une prison. Wa jannatul lil kafir. Le sijn, dans une prison, vous êtes privé de quoi? De liberté. Vous êtes privé de confort. Vous êtes privé de nourriture. Parfois même séparé de vos proches, qu'Allah nous protège. Mais dans ce dunya, la métaphore elle est parfaite. Quelqu'un peut être privé de ses droits, de ses libertés, à cause de son iman, privé de plaisir, comme il voit les autres profiter du plaisir, parce qu'il a des limites. Et ça peut être un sijn également parce qu'il vit des difficultés et il ne voit pas l'ouverture, il ne voit pas l'aide, la nusra d'Allah. Alors que ceux qui font du tort, ils s'en sortent. Ils vivent bien, mais de toute façon, ils vivent bien parce que ça, ce n'est que Jannah lil kafir. C'est le paradis à eux et là où ils n'auront rien. Donc quand on vit des situations complexes, on se rappelle de ce hadith, on se rappelle de ces versets et on a confiance en la justice d'Allah. En aucun cas, les actes islamophobes qu'on peut vivre dans notre quotidien ou qu'on peut voir à travers les actualités ne doit mettre en doute notre iman. En aucun cas. Parce que là, on raterait les preuves. Quelqu'un se dit, attends, mais c'est pas possible dans les pays musulmans, dans tel endroit, mais ces gens-là, ils sont musulmans, ils sont comme moi, ils prient, ils font le ramadan, ils regardent ce qui leur arrive, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Il ne faut pas que Shaitan puisse pénétrer à travers cette faille et mettre un doute dans notre tête. Mais si, na'oudou billah, si c'était vraiment la religion de la vérité, si, Al-Qadam pardonne ce terme, si Allah existait vraiment, il les aurait aidés. Les Sahaba n'étaient-ils pas meilleurs que ces gens? N'avaient-ils pas un rang plus important auprès d'Allah que ces personnes persécutées de nos jours? Mais Allah les a laissés dans ces situations parce que c'est là la sagesse d'Allah et la justice réelle, c'est dans l'au-delà. Hada. Wa idha qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idha ra'awhum. Pour revenir au verset juste avant, lorsque ils retournent auprès de leur famille, ils retournaient en plaisantant, et les mufassirin disent ظنًا أنهم نجحوا وأنهم غلبوا المؤمنين. Quand ils retournent auprès de leurs proches, ils se moquent, ils racontent leurs exploits, comment il a pu insulter, humilier tel musulman. Ils croient qu'ils ont eu le dessus, ظنن, ils pensent que c'est eux les meilleurs, c'est eux les plus forts, ils pensent que vraiment ils ont donné une bonne leçon à ces gens, ils ont pu les persécuter, ils ont pu les humilier par rapport à leur foi. ظنن وسوس من الشيطان, insufflation de Shaitan qui les fait croire qu'ils sont au-dessus et que c'est eux qui contrôlent, c'est eux qui dirigent, si seulement ils savaient ce qu'Allah leur a réservé dans le-delà. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون, en les voyant, on disait ce sont vraiment ceux-là les égarés. Et de nos jours, enfin à l'époque où le verset est révélé, on parle de dalun, égaré. De nos jours, dites-moi quels sont les termes qui remplacent égaré. Issa, quels sont les termes qualifiant les musulmans qui remplacent égaré? Il y a toute une panelle de termes, de qualificatifs avec les suffixes qui tuent. Les suffixes en ist, isla, mist, extrait, mist, inté, grist, que ça encore, acti, vist. On ne parle pas de quelqu'un qui va. On ne parle pas de ces abrutis en Grande-Bretagne, là. C'est de malades, hein, qui ont. Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai vu ça hier soir, subhanallah. Ils ont tué deux soldats, un ou deux soldats? Deux sur un soldat en plus. Avec quoi? Une hache, une machette, ils voulaient faire quoi? On parle d'hommes qui meurent, d'hommes, de pères de famille qui ont des enfants certainement. C'est ignoble. Et ce qu'ils ont fait, peut-être que c'est un crime. Il y a déjà eu des crimes similaires ou pires. Pour moi, cet homme d'origine britannique qui a égorgé ses deux enfants à Lyon, je crois que c'était à Lyon, non? C'est en France en tout cas, je ne sais plus quelle ville. Pour moi, c'est aussi grave. Un homme qui égorge ses deux enfants, pour moi, c'est un terroriste aussi. C'est aussi grave, pour ne pas dire plus grave. Tue des enfants, et tue ses enfants. Les animaux ne le font pas, oui ou non? Un animal ne tuerait pas son petit. Et lui, il égorge ses deux enfants. Ben, ce que ces deux personnes-là ont fait, c'est grave, c'est un crime. Ils ont tué un innocent. Le gars, il était quoi? Il était soldat? Il était soldat, c'est son métier. C'est pas ce monsieur-là qui est parti tuer des gens des pays musulmans. Et vous voyez le djihad, là on ne parle plus d'intégrisme religieux, là c'est de la bêtise, là c'est de l'ignorance. Parce que il y aurait des soldats britanniques qui auraient tué des gens dans les pays musulmans, et qu'il faut tuer ceux-là, mais c'est pas eux. La'ouz billah, ça n'a aucun sens, aucune cohérence. Mais moi, c'est pas là-dessus que je vais m'attarder. Pour moi, la culpabilité de ces deux meurtriers, ce n'est pas uniquement le fait d'avoir tué un soldat. Pour moi, ce qui est grave également, c'est qu'ils osent dire « La ilaha illallah, Allahu Akbar » en faisant ça. Mais non! Non! C'est comme... C'est aussi bête que quelqu'un prend une bouteille d'alcool... Excusez-moi, vous choquez. Quelqu'un qui prend une bouteille de champagne, d'alcool, qui « Bismillah, Allahu Akbar » il boit. Vous voyez cette personne, qu'est-ce que vous dites? Passage à tabac direct. Dis, bon, elle va aller sous là-haut, là-bas, bois, et fume de zamal, fais ce que vous voulez, mais prononce pas le nom d'Allah. Ou comme quelqu'un qui va faire l'adultère et qui dit bismillah. Vous voyez la bêtise? Vous voyez le décalage? Il fait un péché, quelque chose de haram. Le prophète alayhi salat wa sallam dit que awwal, la première chose à propos de laquelle il y aura hisab concernant les relations entre les gens, c'est ad-dima, le sang. Il dit que le mavloum, le maktoul, la personne qui a été tuée, va se présenter auprès d'Allah avec sa plaie saignante. Ou alors, s'il a été décapité, avec sa tête dans sa main, il avance auprès du tribunal d'Allah. Et là, on parle du rêve, hein? On parle du monde de l'invisible, du monde de l'au-delà. Des choses qu'on ne peut pas comprendre par la logique. Il va dire, « Oh Allah, salhu fima qatalani. » Oh Allah, demande-lui, pose-lui les questions, oh Allah, pourquoi est-ce qu'il m'a tué? Premier péché qui sera examiné, c'est le meurtre, le sang qui est versé injustement. Vous voyez la bêtise de ces gens-là, mais en faisant cette action, cet acte odieux, cet acte qui est odieux, qu'ils osent dire bismillah, j'ai même entendu à la fin de la vidéo, Allahumma salli ala Muhammad, des trucs comme ça. Pour moi, ça c'est une trahison envers notre dîn, envers l'islam. Une trahison envers la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maintenant, que les gens ne se forgent pas une opinion sur l'islam par rapport à ça, là wallah. Si quelqu'un trouve le moyen de dire que ça c'est l'extrémisme religieux, ça voudrait dire que c'est comme si ces gens-là sont des fervents pratiquants. Ils ne sont pas de fervents pratiquants, ils ne sont rien du tout. Ce sont des fervents abrutis. Ce sont des fervents brutes, des gens qui n'ont aucun ilm, peut-être aucune connaissance même de l'islam, manipulés ou atteints de troubles psychologiques qui ont fait ça. La seule chose qui les démarque, c'est qu'ils ont osé dire Bismillah et Allahu Akbar et ont fait de ça un crime islamique ou autre chose. Allahu musta'an. Hada. Wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun wa ma ursilu 'alayhim hafidhin. Hein, c'est pas eux qui prennent les décisions. C'est pas eux qui surveillent, c'est pas eux qui décident, c'est pas eux qui jugent. Bal al-hukm lillah. C'est pas eux qui donnent leur vision du monde, c'est pas eux qui décident qui est dans le bon, qui est dans le mauvais, qui est dans le droit chemin, qui est dans la perdition. Ça c'est pas leur rôle ça. Ils n'ont pas été mandatés par Allah pour donner des jugements sur les populations, sur les gens, qui est dans le droit chemin, qui est dans le mauvais chemin. Bal al-hukm lillah. C'est Allah qui juge et c'est Allah qui connaît qui est dans le droit chemin, qui est dans le mauvais chemin. Mahma qalu, quelles que soient les paroles qu'ils disent, quelles que soient leurs pensées, ce qu'ils écrivent, ce qu'ils prennent comme décision, en finalité, tout est dans les mains d'Allah. Même si de visu, on voit des décisions injustes qui sont prises, mais tout est dans les mains d'Allah en finalité. Et wal'aqibatu lilmuttaqin. En finalité, Allah accorde son aide à ceux qui ont la foi et l'aide d'Allah, c'est dans ce monde ou dans l'au-delà. Et Allah humilie les personnes qui ont combattu son dîn. Dans l'au-delà, par rapport au verset qu'on va voir tout de suite. Maintenant, Falyaum, là on a vu qu'est-ce qu'il faisait. Mais Falyaum alladhina amanu min al-kuffari yadhakun. Aujourd'hui, en ce jour, c'est-à-dire le jour de Qiyama, alladhina amanu, ceux qui ont la foi, ils vont rire. J'ai pas la traduction du Coran, mais yadhakun, c'est se moquer, enfin pas se moquer, c'est en ce jour, c'est eux qui vont rire. De ces koufars qui se moquaient d'eux dans ce dunya. Et les mufassirines disent que lorsque les koufars ils riaient, c'était un rire en rapport avec le péché. Mais lorsque les gens de l'au-delà rient, al-dahik alladhi la buka abada, c'est un rire après lequel il n'y aura pas de remords, pas de pleurs. C'est-à-dire qu'ils vont voir la justice d'Allah avec ses oppresseurs et ils vont rire. Ils vont être satisfaits intérieurement que la justice a été faite. Le mal a été puni. Parce que quand quelqu'un vous fait du tort, par exemple, frère Issa, je lui ai fait du tort, je lui ai fait perdre son travail. Je ne vais jamais faire ça. Je vais lui faire perdre son travail, je vais lui faire divorcer, perdre la garde de ses enfants, séparer de sa femme, rejeté par ses parents, perdre son logement, l'humilier, je vais lui faire plein de choses. Et lui, il est opprimé, moi je suis l'oppresseur. D'accord? Et qu'un jour, il s'en sorte. Il va habiter ailleurs, il va mourir, il va au Canada, il va je sais pas où, et il refait sa vie, une nouvelle épouse, une autre famille, un bon travail, et il s'en sort bien. On va dire qu'intérieurement, ça va. Il s'est reconstruit psychologiquement, et il s'est refait une vie, comme on dit. Mais le jour où il me voit, où il entend parler de moi son oppresseur, il y aura encore quelque chose de son cœur. Alors que peut-être sa situation actuelle, elle est beaucoup mieux qu'avant. Il est devenu plus riche qu'avant, il a plus de choses, plus de biens, plus de... Bref, mais tant que on ne voit pas l'oppresseur puni, il y a quelque chose qui reste dans le cœur. Même si les plaies sont cicatrisées, tant qu'on ne voit pas celui qui vous a fait du mal, tant qu'on ne le voit pas puni, on ne voit pas la justice, on ressent encore une douleur intérieure. Même si vous allez bien, même si tout va bien dans votre vie maintenant. Et ça, c'est la hikmat d'Allah, ça c'est adl, la justice d'Allah, que ces gens-là ils sont dans le Jannah, alhamdulillah, on a vu les bienfaits qu'ils ont, on a vu dans le verset là, dans la deuxième partie de Al-Mutaffifin, mais ce n'est pas tout. En plus d'avoir ces bienfaits, al-ara'ik, ils boivent du rahiq al-maktoum, ils boivent du tesnim, etc., il faut également qu'ils voient ce qu'Allah Azza wa Jal a fait des zalimi, des oppresseurs, et c'est là qu'ils seront contents, ils vont éprouver de la joie parce qu'Allah a fait la justice. Et enfin, على الأرائك ينظرون أي إن المؤمنين على الأرائك في الجنة. Ces musulmans sont sur les divans installés dans le paradis. Ils voient ce qu'Allah leur a accordé comme récompense et ils voient également quelle est la situation des oppresseurs. Et enfin, هل ثوب الكفار وما كانوا يفعلون. Pour dire, c'est une phrase ironique par rapport à ce qu'ils ont fait. Inna Allah Ta'ala, il a déjà fait justice, wajazahum jaza'a fi'lihim fi dunya. Allah les a donné ce qu'ils méritaient par rapport à leurs agissements dans ce dunya, et la personne maintenant, elle est, alhamdulillah, elle ressent elle ressent, elle est consciente qu'Allah ne les avait pas oubliés. C'est pas qu'Allah avait oublié telle personne parce qu'il y a trop d'êtres humains, a'oudou billah. C'est qu'Allah attendait le moment propice pour élever l'opprimé et pour accorder ce que l'oppresseur méritait comme châtiment. Avec ça, alhamdoulilah, on termine Al-Mutaffifin. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de donner la possibilité de comprendre les paroles de cette sourate, de pouvoir méditer sur le sens de ces. Combien de versets il y avait 36, si je ne me trompe pas. De méditer sur ces 36 versets et que la réalité de ces paroles entre nos cœurs. Et quand on le lit, quand on l'écoute à la salat, on réalise et on comprend ces paroles qu'Allah Azza wa Jalla adresse à tout Ahlul Iman. Allahumma amin.